Radio Prague, les informations.
Les chefs de la diplomatie tchèque et allemande se sont rencontrés à Berlin. Des syndicalistes ont manifesté à Prague contre les changements du Code du travail. Le congrès de deux jours du Parti civique démocrate se tient à Brno. Les chefs de la diplomatie tchèque et allemande, Cyril Svoboda et Frank-Walter Steinmeier, se sont rencontrés à Berlin pour y inaugurer la conférence du forum de discussion tchéco-allemand. Pour ce qui est des rapports réciproques, ils ont été qualifiés d'excellents, bien que Prague ne puisse pas s'attendre à une modification de la période transitoire concernant la libre circulation de la main-d'œuvre par laquelle l'Allemagne protège son marché du travail. Ce marché, les Tchèques ne le menacent pas, a souligné Svoboda. Près de 30 000 syndicalistes de plus de 50 unions syndicales de toute la République tchèque ont manifesté samedi à Prague contre des changements du Code du travail proposés par les employeurs et les partis de droite, changements qui, selon eux, affaiblissent les droits des employés. Le congrès de deux jours du Parti civique démocrate, la principale formation de l'opposition, a commencé à Brno. La stratégie et le programme pour les législatives 2006 sont au cœur des débats. L'ODS s'y présente comme un parti qui arrêtera l'influence croissante des communistes et le style politique de la social-démocratie qualifié par lui d'arrogant. Dans son discours, le président de la République et président d'honneur de l'ODS, Václav Klaus, a invité les démocrates civiques à ne pas gaspiller la chance d'assumer la responsabilité vis-à-vis de l'évolution dans le pays. Une centaine d'adhérents du mouvement des Skinheads se sont rassemblés à Liberec, ville de Bohême du Nord, en acte de piété à la mémoire d'un néo-nazi mort lors d'un accident de route. Près de 90 policiers étaient sur place pour maintenir l'ordre. Plus de deux dizaines de cinéastes qui sont unis par leur âge, ayant dépassé 58 ans, présentent leur création dans la ville morave de Kroměříž. Plus de 50 films de cinéastes de Tchéquie, de Slovaquie, Pologne, France, Italie, Allemagne et Autriche seront projetés au concours Senior Forum qui en est cette année à sa 12e édition. La saison de ski a commencé dans les monts des Géants et dans le massif de la Šumava. Les amateurs du ski ont profité du beau temps qui a régné samedi à la montagne. Un temps variable avec des chutes de neige et des températures entre moins 1 et 0 degrés est prévu pour dimanche, jour de fête des Xeni dans le calendrier tchèque. C'était les informations par Yarkagi Subleva. Merci de les avoir suivies.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
L'abolition de l'esclavage a été précédée par le livre d'une femme, Madame Beecher Stowe. Pourvu que votre livre précède l'abolition de la guerre, a écrit Léon Tolstoï à Bertha von Suttner. Ce n'était pas une comparaison prise à la légère, tandis que le livre La maison de l'oncle Sam de la romancière américaine Harriet Beecher Stowe a précipité le mouvement pour l'émancipation des Noirs d'Amérique, le roman À bas les armes de Bertha von Suttner allait déclencher le mouvement pour la paix. Le livre « À bas les armes » paraît en 1889 et connaît presque immédiatement un immense succès international. L'éditeur hésite d'abord et demande à Bertha von Suttner de changer ou de supprimer carrément certains passages, mais elle ne cède pas et réussira à défendre l'intégrité de son œuvre. Le livre paraîtra à Dresde, à Leipzig et à Vienne et sera traduit dans une quinzaine de langues. Rien qu'avant 1895, le roman sera publié en 12 éditions. Ce récit sur la vie d'une jeune femme, Martha, qui perd son jeune époux dans la guerre austro-italienne, est vendu à 2 millions d'exemplaires. Le public s'arrache le livre qui démontre l'horrible absurdité de la guerre à travers les sentiments de son héroïne. l'auteur de ce best-seller, qui ne cache pas ses intentions antimilitaristes, se voit propulsé au premier plan de la vie internationale et saura profiter de cette nouvelle popularité. En 1891, Bertha von Suttner prononce son premier grand discours public au troisième congrès international de la paix à Rome et devient le personnage central du mouvement pacifiste européen. C'est à son initiative que les organisations nationales se réunissent en Union internationale de la paix. Désormais, elle poursuivra avec une énergie inépuisable son œuvre pacifiste qui lui apportera en 1905, il y a juste un siècle, le prix Nobel de la paix. Jean-Paul Vienne, vice-président du mouvement de la paix d'Isère, dévoque les innombrables activités de cette femme.
On n'imagine plus son prestige. Avec une très grande lucidité, elle avait reconnu qu'on ne pouvait lutter efficacement contre la guerre qu'en s'attaquant à ses causes profondes, l'exploitation économique, l'oppression politique et toute forme d'injustice. Au centre de ses propositions, qu'elle répétait inlassablement, le désarmement et la création d'une cour d'arbitrage internationale pour régler tous les litiges entre les nations par le droit. Ces bêtes noires, l'empereur d'Allemagne, le très belliciste Guillaume II, le militarisme austro-hongrois, les nationalismes de toutes sortes, la course insensée aux armements et les fabricants et marchands de canons.
C'est probablement le trac qui a décidé de la vie de la comtesse Bertha von Kinsky, née à Prague en 1843. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle devienne cantatrice. Bien que son talent pour le chant soit évident, ses tentatives de chanter en public se soldent par des échecs car elle a la gorge serrée par le trac. L'issue d'une grande famille aristocratique, elle ne possède aucune fortune personnelle, mais elle est riche de connaissances. Elle maîtrise parfaitement quatre langues et ses connaissances en littérature, philosophie, biologie, physique et chimie sont tout à fait exceptionnelles pour une femme du XIXe siècle. Comme les hommes n'aiment pas trop les femmes savantes, elle estime que cette large culture encyclopédique et sa liberté d'esprit la rendent inépousable. Mais quoi qu'elle fasse, le charme particulier de cette femme trop instruite et se qualifiant de bas bleu ne passera pas inaperçu chez les hommes. Et le roman de sa vie sera aussi un roman d'amour. Ils seront plusieurs à tomber amoureux d'elle. Parmi ses prétendants, on trouve par exemple le fils d'un riche commerçant australien, mais aussi deux princes. Une idylle naît entre Bertha et le prince Héraclius de Géorgie, mais la liaison est rompue avant le mariage. Il semble que le bonheur guette la jeune femme lorsqu'elle fait la connaissance à Baden-Baden du prince Adolf Wittgenstein, chanteur d'opéra. Il part pour un engagement au Metropolitan Opera de New York et il invite Bertha aux États-Unis où il va l'épouser. Malheureusement, il meurt terrassé par un infarctus sur un bateau au milieu de l'Atlantique. C'est donc en devenant gouvernante dans la maison de la famille Suttner à Vienne que Bertha fait finalement connaissance de l'homme de sa vie. Le baron Arthur von Suttner, fils de famille, s'éprend de la charmante gouvernante, mais ses parents s'opposent à son intention d'épouser cette femme extravagante et sans fortune, qui en plus est de 7 ans son aînée. Il faudra beaucoup de persévérance et de courage avant que les deux amants parviennent à leur fin. Après un mariage clandestin, ils partent immédiatement en Géorgie, où ils resteront pendant 9 ans en gagnant leur vie par le journalisme et la littérature. Bertha se met à écrire. Elle donnera une 40aine d'ouvrages d'un niveau inégal qui peu à peu la feront connaître des lecteurs. Elle lui apporte finalement la gloire mondiale. Arthur restera le compagnon fidèle de Bertha, son complice et son collaborateur pendant tout le reste de sa vie. la mort le séparera de son épouse en 1902 à l'âge de 52 ans. Bertha, couverte d'honneur, vénérée par certains et décriée par d'autres, poursuivra son œuvre sans relâche jusqu'à la fin. Elle s'éteint en 1914, quelques semaines à peine, avant le début de la guerre mondiale qu'elle cherchait à éviter par tous les moyens. Impossible de résumer une vie aussi riche et aussi pleine d'événements dont les conséquences et les bienfaits se font sentir encore aujourd'hui. Jean-Paul Vienne.
On peut même dire qu'elle inventa le militantisme moderne, lequel repose sur une vision assez globale des problèmes, d'abord au sens où les valeurs qu'elle défendait avaient une portée universelle, donc planétaire, ensuite parce qu'elle reconnut très vite que toutes les causes sont liées. C'est ainsi qu'elle fut non seulement une grande pacifiste, elle a du reste inventé le concept, mais aussi une antiraciste, elle lutta notamment sans relâche contre l'antisémitisme, une anticolonialiste, une militante des droits de l'homme, et plus spécifiquement des droits de la femme. Elle avait sur l'éducation des jeunes filles des idées révolutionnaires dont la modernité peut étonner.
Nous avons évoqué la vie et l'œuvre de Bertha von Suttner, prix Nobel de la paix. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Jarka Fiklova, réalisation technique, et à Petr Pokorný, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue.
Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Après avoir étudié dans nos deux émissions précédentes les expressions de la langue tchèque relatives au diable,
čert,
ou
diabel,
puis aux anges,
andělé,
nous allons cette fois, comme promis, nous laisser emmener par ces fameux petits anges,
andělíčci,
au ciel.
Nebe.
C'est donc cet espace au-dessus de nos petites têtes que limite l'horizon qui fera l'objet de notre attention. Le ciel, un espace qui, dans nos imaginaires, représente à la fois l'au-delà, le séjour de la divinité, de la providence, de Dieu,
Bůh,
ou des dieux, mais aussi le paradis,
Ráj,
le séjour des bienheureux. Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes des mineurs de fond. Tous les Français connaissent les paroles du refrain de la fameuse chanson « Les corons » de Pierre Bachelet. Au-delà de la description d'une certaine idée que certains se font de ce qu'ils appellent l'enfer du Nord, Pierre Bachelet, comme Jacques Brel qui dans sa chanson « Le plat pays » évoque un ciel si bas qu'un canal s'y est perdu, nous donne une définition parmi d'autres de ce qu'est le ciel. On retrouve également cette notion physique en tchèque. En un mot, le ciel, c'est ce qui se trouve au-dessus de nous, un espace infini et d'une certaine manière inaccessible. Pour nous en convaincre, citons par exemple l'expression
« Pije, až se nebe točí ».
Il boit jusqu'à ce que le ciel tourne. Toujours selon cette idée qui veut que le ciel est cet espace plus grand que tout, illimité, immense, interminable, on peut encore mentionner un idiome comme
« Bydlet u samého nebe ».
Habiter au ciel, qui ne signifie pas que l'on se trouve au paradis, mais plutôt que notre habitation se trouve à une très haute altitude. Une façon de penser, somme toute, très logique, puisque les montagnes décrochent souvent les nuages. Or, tout le monde le sait, les nuages se trouvent dans le ciel. Une autre expression très jolie, qui ne manque pas de logique, est celle qui veut que lorsqu'un tchèque affirme que le ciel s'ouvre,
nebe se otevírá,
cela signifie en fait qu'il y a des éclairs. Puis, pour en terminer avec ce ciel dans son sens physique et ce concept d'inaccessibilité, d'impossibilité, signalons encore l'équivalent de l'expression française très populaire « décrocher la lune » qui en tchèque devient
« snést modré z nebe »,
soit littéralement « décrocher le bleu du ciel ».
Čistá kuchyň a čistá...
Mais le ciel, c'est donc aussi le lieu de résidence des dieux, un lieu de repos, de vie éternelle. En un mot, c'est le paradis. Certes, le paradis peut être terrestre, et ce même si le ciel est évoqué comme dans l'expression
« mit nebe nazeme »,
soit avoir le ciel sur terre, ce qui signifie que l'on s'en porte très bien et que nous avons tout pour être heureux. Toujours en relation avec le bonheur complet et la jouissance de la vie, nous ne pouvons omettre le fameux « être au septième ciel ».
Bit sedmém nebe.
Ou encore
« ani v nebe mu tak nebude ».
Ce qui traduit grossièrement nous donne « même au ciel, il n'ira pas mieux ». Mais si le ciel évoque la vie éternelle, avant de profiter de ce séjour enchanteur, il nous faut quand même en passer par la mort. Voilà donc pourquoi de quelqu'un qui est mort, on dira, comme en français d'ailleurs, qu'il est parti au ciel.
Shel do nebe.
Ou qu'il est au ciel.
Yevnebe.
D'autres fois, on aura recours à une autre formule imagée en affirmant d'un défunt qu'il nous regarde depuis le ciel.
Kouká na nás z nebe.
Attention cependant, de quelqu'un d'autre qui se trouve sur son lit de mort et dont on pense qu'il vit ses dernières heures, on dira, un peu ironiquement, il n'a pas le droit d'aller au ciel et on ne veut pas encore de lui en enfer.
Do nebe nesmí a v pekle ho ještě nechtějí.
Et si cette expression n'est pas forcément du goût de tout le monde, avouons tout de même que les Tchèques ont parfois un sacré sens de la formule. Enfin, mentionnons encore deux expressions un peu curieuses mais très courantes dans la vie des Tchèques. Tout d'abord, la célèbre
To je nebe a dudy.
Ce qui mot à mot nous donne, c'est le ciel et la cornemuse, ou musette. En fait, et allez donc savoir pourquoi, cela signifie tout simplement que c'est le jour et la nuit. Et ensuite, le jeu d'enfant de la marelle, qui pour ceux qui l'auraient oublié, consiste à pousser à cloche-pied un caillou dans des cases numérotées d'une figure tracée sur le sol, s'appelle dans les cours de récréation des écoles tchèques
« Nebe peklo raj »,
soit « ciel, enfer, paradis ». Voilà, c'est sur cette petite note nostalgique que prend fin ce tchèque du bout de la langue consacré au ciel.
Nebe.
Prochainement, nous resterons dans les cieux, puisque nous nous pencherons sur les expressions se rapprochant au bon Dieu.
Pambuch.
En attendant, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Mějte slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Magda Segertova.
Vous êtes toujours sur Radio Prague. Comme chaque semaine, nous avons lu vos lettres et messages électroniques. En voici quelques extraits. Il y a un peu plus d'une semaine, nous avons célébré sur Radio Prague aussi le 16e anniversaire de la chute du communisme dans le pays. Guy Wolzing nous a écrit à ce sujet un email. Je cite « Français, je ne suis pas un expert de l'histoire tchèque. Alors je me trompe peut-être, mais voilà, le 17 novembre 89 est le début de la révolution de velours. Or, je croyais avoir lu que votre ex-président Václav Havel avait été un acteur très important de cette révolution et je n'en entends pas parler. Comment se fait-il ? Si vous pouviez me corriger dans mes connaissances, je vous en serais très reconnaissant. » Fin de citation. Il n'y a aucun doute là-dessus, Monsieur Walsing. Václav Havel a été décidément la principale figure de la révolution de velours. Comme vous le savez sans doute, nous revenons assez souvent sur sa personnalité, son œuvre et ses prises de position dans nos émissions. Mais cette année, pour le 17 novembre, nous avons tout simplement voulu donner la voix à d'autres personnes qui avaient des choses intéressantes à dire à propos de l'évolution démocratique ces 16 dernières années dans le pays. Cette fois-ci, nous avons reçu aussi un message d'un Pragois, Vassili Lemoigne. Juste un petit mot pour vous dire que j'apprécie beaucoup votre site web en français et aussi en anglais et en allemand. Presque tous les jours, je le visite et cela me permet de mieux comprendre votre société. J'habite ici avec ma femme d'origine tchèque et le travail que vous faites est donc très important pour moi en tant qu'étranger intéressé par votre pays et pour ma famille, modèle de l'Europe intégrée. Merci de vos efforts qui ne passent pas inaperçus. Passons maintenant à un sujet précis et ce sont les voyages. Notre auditeur Majid nous a écrit. Je suis français d'origine méditerranéenne, Maghreb, et je voulais savoir s'il y avait un risque de se balader dans les rues de Prague. En effet, ce week-end, j'envisage un séjour à Prague avec une amie pour fêter divers événements et on est un peu inquiet au sujet des mouvements néo-nazis. J'aimerais connaître les adresses des discothèques et bars sympas où l'on pourrait faire la fête en toute sécurité. Cher Majid, c'est trop tard peut-être pour vous répondre dans ce courrier des auditeurs, mais je tiens à le faire quand même, surtout pour rassurer les autres auditeurs ou lecteurs qui se posent ce même genre de questions. Je voudrais préciser d'emblée que j'étais aussi inquiète que vous avant mon premier voyage en Russie il y a 8 ans. Sur place, j'ai réalisé à quel point mes craintes avaient été superflues et mon esprit borné. Tout d'abord, quoi que vous vous promeniez à Paris, à New York, à Moscou, à Prague, le risque est, je pense, le même. Partout, il pourra vous arriver des choses désagréables. Il est vrai que la République tchèque a la réputation d'un pays trop homogène et peu tolérant envers les étrangers. Mais à force de répéter cela, on en arrive, je crois, à des idées toutes faites et à des préjugés. Il ne faut surtout pas généraliser. Il faut venir avec un esprit ouvert et se former une opinion soi-même à partir du vécu. J'espère que ça se passe bien pour vous, Majid, et j'aimerais que vous nous écriviez, ainsi que les autres auditeurs, vos impressions de vos voyages en République tchèque, les expériences que vous avez faites, qu'elles soient positives ou négatives. Et pour cause, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la lettre de Daniel Stepanovski de France. Il a réagi à la question d'un auditeur qui avait voulu savoir à quelle époque visiter Prague. Je cite « Je crois que toute l'année, il y a matière à la découverte. Autrefois, nous allions au mois d'août, mais depuis, j'ai découvert les marchés de Noël, les festivités de Pâques et la douceur de juin. Il me manque les champignons de l'automne. » Fin de citation. Monsieur Gilles Moron du Canada, lui, ne semble pas inquiet quant à la sécurité à Prague. Il nous a écrit « Je serai à Prague avec ma conjointe du 1er au 14 février 2006. Qu'avez-vous à nous suggérer pour que nous puissions, lors de notre séjour, profiter de votre beau pays ?» Nous sommes des amoureux de tout ce qui est beau, de la musique, des arts, de la peinture, de l'architecture, etc. Merci pour votre beau site internet qui est très utile. Monsieur Morand, continuez à lire nos pages web car nous vous y informons de tout ce qui se passe d'intéressant dans le pays, y compris des événements à venir. J'aimerais bien vous donner des suggestions, mais il me faudrait plus de précisions sur vos goûts et intérêts, car la musique, les arts, l'architecture sont des champs très vastes. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant de l'actualité culturelle pragoise au début de février. Pour ce chapitre consacré au voyage, la remarque d'un auditeur ou lecteur anonyme de notre site internet, il nous a envoyé cet email. Je reviens de Turquie et bien qu'elle ne soit pas dans l'Europe, beaucoup de prix sont affichés aussi en euros, alors qu'en Tchéquie, pays européen, je n'ai pas vu de double affichage l'année dernière. Fin de citation. Je ne crois pas que les pays qui ne font pas partie de la zone euro soient obligés de marquer les prix dans la monnaie européenne. En tout cas, c'est l'occasion de rappeler que la République tchèque s'apprête à adopter l'euro au 1er janvier 2010. Et c'est la fin du courrier des auditeurs de cette semaine. Le programme de Radio Prague en langue française se termine aussi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain.
Noční můry pijou silnej čaj. Smutnej déšť, očím houříš, už v nich nejsem sám. Ještě málo žijou, když se ptají. taky ztratí sílu, když ti dál šeptám. Why my guitar gently weeps pod správnou hvězdou v malém ráji chtěl jsem říct. Still my guitar gently weeps. Den chová stín vzácnu na koulavý pár koček strát. Sen ti skrývám na píčkách, těch si mohou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear radio.